Bonjour à tous.
Karine Bellichat.
À la une, l'équipe de France, c'est la seule chose que je voulais faire. Voilà les premiers mots de Zinedine Zidane. Pardon, après l'officialisation sans surprise de sa nomination au poste de sélectionneur des Bleus. Sur le front des incendies en France comme en Espagne, les pompiers veulent marquer des points contre les brasiers. Avant le retour de la canicule, les évacués des deux côtés de la frontière tentent de s'accommoder d'un quotidien bien précaire. Et puis nous évoquerons le ballet diplomatique à la Maison Blanche, deux rencontres d'affilée pour Donald Trump. Le président ukrainien sera dans le bureau ovale avant le Premier ministre israélien. Z comme Zidane, icône du foot français à 54 ans, Zinedine Zidane a donc été nommé sans surprise sélectionneur des Bleus avec la lourde tâche de succéder à son ancien coéquipier Didier Deschamps. Cette nomination, l'ancien capitaine de l'équipe de France, ex-entraîneur au Real Madrid, il en rêvait depuis des années.
Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes. Jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà. C'est la seule chose qui m'anime. C'est de pouvoir, travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner.
Zinedine Zidane qui a dit espérer que le journaliste sportif français Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie, puisse rentrer chez lui. Je soutiens comme un parent, Christophe Glaise, a dit le nouveau sélectionneur des Bleus.
RFI.
Les pompiers français déjà épuisés n'auront aucun répit dans le sud-ouest, même si la nuit dernière a été calme. Le retour prévu de la chaleur inquiète. Il fait craindre une nouvelle aggravation des incendies autour de Bordeaux. Météo France prévoit une hausse des températures jusqu'à 35 degrés dans les terres. Aujourd'hui, les déplacés climatiques dans la région, plus de 220 000 personnes, ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Beaucoup ont pu être relogés en urgence chez des proches, mais plus d'un million se trouvent sans solution, réfugiés dans le parc des expositions de Bordeaux depuis la nuit de vendredi à samedi. Ils dorment sur des lits de camp. De nombreux bénévoles sont à pied d'œuvre pour rendre leur quotidien précaire supportable. Reportage de Nicolas Roca.
Pour tout ce qui est nutrition, on l'accepte pas sur ce pôle.
On se trouve dans le grand hangar du parc des expositions où les différents dons sont recueillis, beaucoup de bouteilles d'eau notamment, de la nourriture un petit peu partout, des couettes, des sacs de couchage. Et les bénévoles essayent de s'organiser comme ils peuvent pour les répartir aussi efficacement que possible pour tous les gens qui doivent dormir ici.
Les camions que vous voyez qui arrivent, c'est les gens qui donnent. Les entreprises, les magasins, les particuliers, tous les donneurs.
Éric Audi travaille à la métropole, mais face à l'urgence, il est devenu responsable de la logistique.
Une fois que ça arrive ici, nous, les bénévoles, on fait décharger ici en stock, par catégorie. Par exemple, vous avez les shampoings pour enfants, les dentifrices, tout est trié et mis par catégorie, comme ça on n'a pas besoin de chercher.
Est-ce qu'il y a encore des manques ?
Non, là, avec ce qu'on a en stock, on peut alimenter 5000 personnes.
De quoi faire face à la crise, mais pas à une éventuelle évacuation des grandes communes, de l'agglomération ou du centre-ville, alors que le feu reste entre 15 et 20 km de Bordeaux. Alors l'aide de tous les bénévoles est la bienvenue, Audrey n'a pas hésité.
Il me semble que dans le monde actuel, faire preuve de solidarité, c'est le minimum que peut faire un être humain. Et donc ça me semble important de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
Plus de 10 000 personnes ont déjà proposé leur aide. Nicolas Roca, Bordeaux, RFI.
En Espagne, le vent attendu dès demain dans la région de Madrid est particulièrement redouté avec le retour d'une chaleur extrême comme dans la région de Valence. Un compte à rebours est déclenché depuis hier pour tenter de maîtriser le feu autour de Madrid avec ses prévisions météo très défavorables qui pourraient rendre la situation de nouveau hors de contrôle. Ces incendies ont déjà ravagé 75 000 hectares, soit 7 fois la superficie de Paris et 90 000 personnes total sont confinés ou évacués. Des évacuations massives pour des raisons de sécurité. Il est important que la population y adhère, comme l'explique Mercedes Martin, porte-parole de la Guardia Civil.
Nous partons du principe que nous avons besoin de la collaboration des citoyens pour pouvoir faire tout ce que nous faisons. C'est très difficile, car les personnes sont très attachées à leur logement et à leurs effets personnels. Nous devons leur faire comprendre que lorsque nous les évacuons, c'est une nécessité, parce qu'il peut y avoir un danger plus grave. Ce que nous devons absolument éviter, ce sont les dommages humains. Et il est très important que les médias, qui sont nos porte-voix capables d'atteindre la population, relayent également ce message. C'est pourquoi l'information est essentielle en cas d'incendie. Il faut aussi expliquer comment évolue l'incendie pour que les gens comprennent pourquoi nous devons les faire sortir de chez eux.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale Alice Froussard. Hier, le Premier ministre espagnol a estimé que ces incendies d'une ampleur inédite sont l'expression d'une urgence climatique et qu'il ne s'agit plus d'une exception, mais de la règle dorénavant. Face à cette situation, un décret-loi va permettre d'étendre la protection des salariés et des entreprises espagnoles touchées par les incendies, une aide pour couvrir des situations qui n'étaient jusqu'à présent pas prises en compte, comme celle des évacués. En avril dernier, Donald Trump avait parlé de Benjamin Netanyahou comme d'un type très difficile. Le premier cessez-le-feu entre Washington et Téhéran avait créé un fossé entre ses deux alliés. Le premier ministre israélien avait concédé des désaccords tactiques. Aujourd'hui, les deux dirigeants se retrouvent à la Maison-Blanche alors que les divergences semblent dépassées. Le dossier iranien sera abordé, mais aussi la mise en œuvre de l'accord cadre conclu sous l'égide des États-Unis entre Israël et le Liban, dont l'application reste difficile sur le terrain. Beyrouth condamne la poursuite des opérations israéliennes dans le sud du pays. L'État hébreu occupe un pan du territoire, affirmant vouloir neutraliser le Hezbollah pro-iranien. À des centaines de kilomètres du front, la région de Moscou a de nouveau été visée la nuit dernière par une pluie de drones. Près de 400 de ces engins télécommandés se sont abattus sur la capitale russe et ses environs, causant des dégâts sur des habitations sans faire toutefois de victimes. Kiev vise en profondeur le territoire russe avec l'objectif affiché de réduire les capacités militaires du Kremlin en ciblant des infrastructures logistiques notamment pour contrer les bombardements russes quotidiens. Au moment où Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison-Blanche, il y précédera Benjamin Netanyahou pour tenter une nouvelle fois de convaincre Donald Trump de le soutenir face à la Russie. Le président ukrainien pourrait bénéficier d'un revirement, celui de l'influenceuse Laura Loomer, qui a l'oreille de Donald Trump. Elle a changé du tout au tout sa position sur Kiev et elle est loin d'être la seule chez les MAGA. Gwendal Lavina, la base électorale du locataire de la Maison-Blanche.
Pendant des années, l'américaine de 33 ans qui se présente comme journaliste reprend les éléments de langage du Kremlin et qualifie l'armée ukrainienne de bande de nazis. Puis c'est une épiphanie. Il y a quelques jours, Laura Loomer poste des vidéos où elle se dit sous le choc de voir à quel point elle a gobé les mensonges de la propagande russe. L'influenceuse complotiste s'exprime depuis l'Ukraine et diffuse aussi une interview du président Volodymyr Zelensky. Il était important qu'elle voie les choses telles qu'elles sont et avec ses propres yeux salue l'entourage du dirigeant. Ce revirement et celui récent d'un autre podcasteur, Tim Pool, sont loin d'être anecdotiques, tant ces figures peuvent faire et défaire l'opinion de la base MAGA de Donald Trump. Le président américain a toujours été dur avec l'Ukraine et la mort du sénateur Lindsey Graham, fervent défenseur de Kiev, faisait craindre le pire à Zelensky, mais il pourrait bien avoir trouvé un soutien de taille en Loomer qui insiste désormais pour faire voter la loi sur le renouvellement des sanctions contre Moscou. Interrogé sur l'évolution du mouvement MAGA sur l'Ukraine, Donald Trump botte en touche, je pense qu'ils soutiennent ce que je soutiens. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Volodymyr Zelensky espère notamment obtenir des missiles patriotes américains avant de pouvoir les fabriquer sur son sol. Et enfin, un puissant séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud-ouest du Japon. L'alerte au tsunami a été levée depuis. Des bâtiments se sont effondrés. Une déflagration est signalée dans un centre commercial sans plus de détails pour le moment. 50 personnes ont été hospitalisées. En revanche, aucune anomalie n'a été constaté dans les centrales nucléaires de la région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, 8 milliards de voisins avec vous, Emmanuel Bastide. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Karine Bellicha. Prochain journal dans 50 minutes. À tout à l'heure.